Bien, bonjour, frères et sœurs. Hier matin, on avait le service de notre cher frère François Lalonde. Je ne sais pas si vous étiez ici. Il y avait plusieurs centaines de personnes. André Saint-Louis me disait qu'il y avait au-dessus de 230 voitures environ. Dernière nouvelle, il y avait pas loin de 600 personnes, je pense 500 quelques. Alors, on a essayé de faire le calcul. C'était assez difficile. Il y avait des gens un peu partout dans le bâtiment, là, mais... C'est un beau service, un service très édifiant. On a entendu de beaux témoignages de la famille et des amis. Et vraiment, on veut glorifier le Seigneur pour ce cher frère et un beau témoignage qu'il a laissé. Et on veut vous encourager à prier pour, évidemment, Lise, son épouse et la famille. Continuez de prier pour eux. Ils ont un autre service la semaine prochaine, je crois, à Toronto. Ils ont beaucoup d'amis là-bas, les anglophones, et puis ils vont faire un service. Donc, ils ont besoin vraiment de notre soutien dans la prière pendant ces moments-là. Donc, si vous voulez prier pour eux. On va se courber, si vous voulez bien, on va demander au Seigneur sa bénédiction. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de tout cœur pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour cette assurance que nous avons. On pense à François qui est maintenant dans ta présence au ciel. Merci pour ce cher frère et ce témoignage qu'il a laissé. Merci pour le témoignage de son épouse et les enfants. On te prie, Seigneur, que tu puisses les accompagner ces jours-ci, alors qu'ils passent par ces moments difficiles. Soutiens-les alors qu'ils continuent à préparer les services, le prochain service qui s'en vient, et pour les prochains mois. Seigneur, soutiens-les, encourage-les. On te prie pour Mme Martin aussi, que tu puisses la soutenir alors qu'elle vient de perdre son fils aussi. Que tu puisses la bénir et la soutenir. Merci de l'encouragement de savoir que Michel est entre tes mains maintenant au ciel. Ça fait tellement une différence, Seigneur, de savoir qu'une place nous est réservée au ciel lorsqu'on vient à Jésus-Christ. On te prie de bénir ce temps que nous avons ce matin. Que ton esprit nous aide à comprendre ce que tu veux que l'on comprenne. Et fais cette œuvre en nous ce matin au nom de Jésus. Amen. Eh bien, vous connaissez le dicton, le fameux dicton qui dit « On ne peut pas montrer de nouveaux trucs à un vieux singe ». Connaissez ça? Êtes-vous d'accord avec ça? Eh bien, c'est ce qu'une femme a appris. Elle a appris ça de son mari, alors qu'elle devait faire un voyage. Son mari ne pouvait pas y aller, donc elle a fait un voyage en Europe. Et ça a donné que malheureusement, dans la même journée où elle quittait, elle est quittée pour prendre l'avion pour partir en Europe, dans la même journée, son chien est mort. Alors là, à la fin de la journée, elle était à New York, elle était en escale, elle devait partir pour l'Europe, donc elle est arrêtée à New York, et puis elle a décidé de téléphoner son mari pour savoir si tout allait bien. Alors, elle demande à son mari comment ça va. Il dit, « Ouf! » Il dit, « Ton chien est mort. » Comme ça. Alors, elle est bouleversée. Elle n'en revient pas. Elle dit, « Ben, franchement, elle dit, c'est comme ça que tu m'annonces, comme si tu m'annonces ça, là. Grosse nouvelle comme ça. Je suis en envers. Tu m'annonces ça comme ça. » Ben, il dit, « Coudon, il dit, comment veux-tu que j'annonce ça? Qu'est-ce que tu aurais fait? » Ben, il dit, « Tu me prépares. » Il dit, « Il faut me préparer. C'est une grosse nouvelle. Il faut que tu me prépares à cette nouvelle-là. » Par exemple, je t'aurais appelé de New York, puis à New York, tu aurais pu me dire, le chien est sur le toit. Puis là, je t'aurais téléphoné le lendemain, directement de Londres, et à Londres, je t'aurais appelé, tu aurais pu me dire, hey, le chien est tombé du toit. Puis là, le lendemain, je t'aurais téléphoné de Paris, puis à Paris, tu aurais pu me dire, hey, sais-tu, le chien est à l'hôpital, est au vétérinaire. Et là, une fois rendu à Rome, là, je t'aurais appelé, là, tu aurais pu dire, sais-tu, le chien est mort. Ça m'aurait préparé. On dit pas ça comme ça, comme froid de même, et que tu changeras bien jamais. En tout cas. Puis, comment va maman? Fait que là, il hésite, puis il dit, ben, insulte-toi. Hey, c'est pas facile de changer. Hein? C'est vraiment pas facile de changer. Mais avec Dieu, comme dit l'ange à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu veut faire cette œuvre-là dans notre cœur. Il veut tranquillement changer notre caractère. Il veut vraiment, comme on l'a vu la semaine dernière avec ce vidéo, il veut nous prendre comme de l'argile. Lui qui est le grand potier, il veut nous prendre et tranquillement retravailler notre caractère et nous changer pour qu'on ressemble davantage et de plus en plus au caractère de Jésus-Christ. Et c'est cette œuvre-là qu'il veut faire, qu'il veut accomplir en nous. On l'a vu hier avec les témoignages, et pas juste hier, on a eu une réunion des boys, vous savez, ces jeunes hommes entre 20 et 40 quelques qui se réunissent à peu près une fois par mois, et on est en train de passer le livre de David, écrit par Chuck Swindoll, puis on regarde le caractère de David et tout ça, et ensemble, on est en train de s'encourager pour essayer de grandir et changer, justement, et de se motiver mutuellement. Et aux boys, on a pu partager la dernière réunion qu'on a eue, je pense c'est dimanche dernier, vraiment des éloges à l'endroit de François. On a passé pendant presque une heure et demie, si ce n'est pas un peu plus. Les frères racontaient tout le beau témoignage qu'ils ont eu avec François Lalonde. Et ce que j'entends, j'ai entendu hier, j'entends les boys et les rencontres que j'ai eues dernièrement, et ce que j'entends, c'est que c'était vraiment ses meilleures années à François, dans les dernières années. Il a vraiment changé. Et c'est tout à fait beau de voir cette œuvre-là que Dieu accomplit en nous. Et on l'a vu avec François, c'était frappant pour ceux qui l'ont bien connu depuis plusieurs années, comment il était rendu doux, il avait changé. Et gloire à Dieu, et tout à l'honneur de Dieu, ça. Et Dieu veut accomplir cette œuvre-là en chacun d'entre nous. Il veut nous transformer. Il veut travailler notre caractère et nous changer. Alors, c'est ce que nous sommes en train de regarder au cours de ces semaines. On a commencé une série sur le fruit de l'esprit la semaine dernière. Cette série s'inspire d'un passage. On part de ce passage dans Galates 5, 22. Et que j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Galates, cette lettre qui se trouve dans le Nouveau Testament. Et on va lire Galates chapitre 5. Dans le fond, on va lire qu'un seul verset. On a lu tout le contexte la semaine dernière, mais ce matin, on va se limiter qu'à un seul verset, le verset 22. Donc, Galates 5, verset 22, qui dit ceci, « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » C'est ça qu'on veut regarder. Le fruit de l'esprit. Vous avez remarqué que le fruit de l'esprit est au singulier ici, c'est tout à fait juste. Il est au singulier. Puis ce qu'on est en train de faire, finalement, on est en train de voir un peu comme un diamant les différents angles du fruit. Ou si on prend carrément un fruit, on prend une pomme. Alors, ce que vous allez voir en train de peler une pomme, ce que vous allez découvrir, c'est qu'il y a plusieurs éléments à l'intérieur de la pomme. Vous allez retrouver de la vitamine C, du potassium, pectine, cellulose et tout ça. Eh bien, c'est ce que nous avons avec le fruit de l'esprit. Un fruit qui renferme plusieurs éléments, dont l'amour, la joie, la patience, qu'on va voir à travers les prochaines semaines. La semaine dernière, on a expliqué que finalement, le fruit de l'esprit, ce sont les attributs communicables de Dieu. Ce sont les qualités qui sont propres à Dieu, intrinsèques dans la personne de Dieu, mais qui sont communicables. C'est ce que Dieu veut faire et veut nous transmettre, nous donner quelques-uns de ces attributs-là. Il y a des attributs qui ne sont pas communicables. Dieu ne peut pas nous donner tous les attributs qu'il possède. Par exemple, l'omniscience, Dieu connaît tout. Dieu est omnipotent, il est omniprésent. Il est en même temps partout. Ce sont des attributs qui ne se communiquent pas. Mais il y a d'autres attributs qui se communiquent. Ce sont des attributs communicables, dont la joie. On a un exemple avec la joie, avec Jésus-Christ. Par exemple, on prend un passage dans Jean 15 où il est dit, « Je vous ai dit cela. » Alors, Jésus qui dit, « Je vous dis cela afin que ma joie demeure en vous. » Alors, Jésus est la source de la joie, ça vient de lui. Et il dit, je vous dis ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Alors, Jésus-Christ veut nous transmettre, nous donner de sa joie afin que notre joie soit parfaite. C'est un attribut communicable. Maintenant, dans Galates 5 que nous avons lu, il y a 9 attributs, 9 qualités de Dieu, entre autres. Paul fait ressortir ces 9 attributs, ces 9 éléments du fruit de l'esprit. Il y en a plusieurs, on en a d'autres ailleurs, mais on veut se concentrer dans les prochaines semaines sur ces 9 attributs de Dieu. Et on veut commencer en pelant un peu la pomme, et le premier élément qu'on va retrouver dans le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On veut s'arrêter sur l'amour. La Bible parle beaucoup de l'amour. L'amour, c'est une des marques distinctives du chrétien. Et c'est ce que Jésus dit dans Jean 13, 35. Jésus lui-même va dire à ses disciples, c'est à cela qu'on va reconnaître que vous êtes vraiment mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, c'est une marque distinctive du chrétien, l'amour. Un jour, vous savez, les pharisiens ont voulu piéger Jésus. Et c'est arrivé à plusieurs reprises où les pharisiens, les rabbins, les chefs religieux du temps de Jésus voulaient coincer, voulaient discréditer aux yeux de la foule Jésus-Christ. Ils ont essayé par toutes sortes de moyens. D'ailleurs, ça s'est empiré de plus en plus. Ils ont finalement décidé non seulement de rejeter Jésus comme Messie, mais en plus de le faire tuer. Mais de temps en temps, ils voulaient, avant d'arriver à la fin ou lorsqu'ils vont le crucifier finalement, de temps en temps, ils essayaient de l'humilier par des questions pièges. Vous savez, pour comprendre vraiment le passage qu'on va lire, laissez-moi vous donner un petit cours de judaïsme 101. Vous allez mieux l'apprécier. On va prendre un exemple avec le Shabbat, ou c'est-à-dire le sabbat. Dieu avait donné juste trois prescriptions dans l'Ancien Testament pour le sabbat. C'est vraiment simple. Et encore là, le sabbat prend un sens tout à fait complet et spirituel à l'arrivée de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Puis parce qu'on découvre, en arrivant dans le Nouveau Testament, finalement, que Jésus est le vrai sabbat. C'est lorsqu'on vient à Jésus-Christ qu'on entre dans le repos de nos œuvres. Et c'était le sens, un sens eschatologique de l'Ancien Testament, finalement, qui pointait le doigt vers l'ultime sabbat qui devait arriver. Et c'était le Messie qui allait venir. C'est pourquoi, moi, personnellement, je ne crois pas. Il y a certains mouvements, dont les adventistes, par exemple, qui vont pousser l'observation du sabbat, etc. Mais moi, je crois que c'est tellement manqué le vrai sens du sabbat, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le sabbat. On entre dans son repos. D'ailleurs, c'est le message de tout le livre aux Hébreux. Le livre aux Hébreux a été conçu, écrit, parce que l'auteur, inspiré du Saint-Esprit, voulait convaincre ceux qui n'étaient pas encore tout à fait décidés à mettre leur foi en Jésus-Christ comme Messie, parce que c'était très difficile. Lorsque tu plaçais ta foi en Jésus à cette époque-là, tu étais carrément expulsé des synagogues et tu pouvais perdre ta maison et tout ça. Alors, c'était très dur venir à Jésus-Christ. Donc, il y avait cette pression-là de vouloir retourner au judaïsme. Donc, le livre aux Hébreux est écrit pour démontrer comment Jésus est supérieur au judaïsme. Et c'est la raison que du début à la fin du livre aux Hébreux, ce que vous allez avoir, c'est vous allez voir Jésus qui va être supérieur aux anges, supérieur à Moïse, supérieur au temple, au sacrifice, il est supérieur au sabbat. Et d'ailleurs, c'est la raison pourquoi on a le message dans Hébreux 3 et 4 de ne pas endurcir nos cœurs comme l'ont fait les rebelles dans l'Ancien Testament, mais de venir à Jésus-Christ et d'entrer dans le repos, le saint repos qui est Jésus-Christ. Et finalement, ultimement, la terre promise qui nous attend, qui est le ciel pour l'éternité. Alors, c'était pas compliqué, le sabbat, c'était relativement simple, mais les Juifs, au fil des années, ont multiplié les lois, les règlements et les règles et tout ça du sabbat, si bien que c'était rendu tellement compliqué. Ils avaient leur liste de choses à faire et à ne pas faire, des restrictions. Par exemple, tu ne dois pas travailler. Alors, ça veut dire quoi le travail? Alors, les Juifs avaient finalement répertorié le travail en 39 catégories de travail. Et ça, c'était, et on avait divisé ça en prescriptions et en interdictions. Et non seulement ça, il fallait savoir, il y avait toutes sortes de critères. Et c'est encore pareil aujourd'hui en passant. Les Juifs ont encore des règles. Ils ont comme modernisé les règles, mais c'est la même chose. Par exemple, voici une version 2014. Quelques-uns des lois, des règles aujourd'hui, version 14. Dans le temps de Jésus, tu n'avais pas le droit d'allumer ou éteindre un feu. Donc, version 2014, quand tu prends ta voiture, tu brûles du gaz, tu as du feu, donc tu n'as pas le droit de prendre ta voiture le jour du sabbat. Par exemple, allons à un autre exemple, tu n'as pas le droit de déplier dans le jour du sabbat. Ouais, OK. Alors, version 2014, papier de toilette, Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas te déchirer. Donc, la solution, c'est que tu découpes tes papiers de toilette la veille pour être prête le lendemain, au jour du sabbat. Sinon, tu prends des Kleenex. Allez, des lois et des lois et des lois, d'accord? T'as pas le droit de tuer une moustique le jour du sabbat. Tu travailles fort. Tu tues quelque chose. Alors, faut pas. Donc, si tu es en train de prendre un bon jus d'orange sur ta terrasse, puis il fait 32, 34, puis là, un maringouin arrive sur ton genou, non, pas le droit, c'est le jour du sabbat. Alors, tu pousses, faut pas que tu travailles fort. Alors là, il y avait, quand on venait, et d'ailleurs, moi-même, je suis allé dans un magasin juif à Montréal il y a quelque temps, et puis c'est tout dans le coin de Montréal, là, dans Queen Mary, tout ça, Côte-Saint-Luc. Puis il y a des rabbins qui servent en arrière de comptoir. Il y avait un magasin de livres et tout ça. Puis régulièrement, il y a des femmes, j'étais là, puis il y avait des gens, des femmes, des hommes qui rentraient et posaient des questions aux rabbins. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit de faire ceci? On a le droit de faire ça? Et constamment, c'est ça, c'est ta liste de règlements, ce que tu dois faire et ne pas faire. Obligation et interdiction. Alors là, à chaque fois que tu voulais savoir, tu allais poser des questions, puis on avait établi toute une structure, on avait échafaudé tout un système pour déterminer ce que tu fais. C'est du travail. Par exemple, si tu es chez vous et tu déplaces des meubles toute la journée, tu n'aimes pas ton décor, tu veux changer ça, tu changes le sofa de plate, tu passes toute ta journée à travailler bien fort, tu es chez vous, puis tu déplaces les meubles du matin jusqu'au soir. À la fin, tu vas avoir travaillé pas mal fort, puis tu es pas mal fatigué, tu as levé les sofas et tout ça. Mais ça, tu n'as pas violé le sabbat. Pourquoi? Parce qu'on juge que tu n'as pas fait vraiment une transformation significative. Mais à l'inverse, en revanche, si tu prends une figue, une petite figue, gros, là, c'est pas bien gros, là, ou n'importe quel fruit qui est à peu près la même grosseur ou un peu plus gros, puis tu pars de chez vous intentionnellement, puis tu te rends jusqu'au marché, wow, tu as violé le sabbat, puis tu vas être puni parce que tu as violé le sabbat. Donc, on avait échafaudé tout un système. On a même continué, non seulement on voulait déterminer si ça rentre, si ça s'inscrit dans les 39 sortes de travail ou de travaux, mais en plus, on avait d'autres critères que les Juifs appellent le Meleret Maha Revet, qui veut dire le travail d'artiste. Est-ce que tu as fait un genre de travail que tu considères comme l'artiste? Et encore là, il y a 4 autres conditions. Et est-ce que c'est intentionnel ce que tu as fait? Est-ce que c'est du travail normalement que tu ferais? Est-ce que c'est selon la technique habituelle? Est-ce que c'est un acte destructeur? En d'autres mots, as-tu défait ton vieux cabanon? D'autres critères. Donc, on avait tous ces critères-là pour établir si tu violais ou pas le sabbat. Donc, il y avait tellement de règles, et c'est encore comme ça aujourd'hui, on va avoir des listes de règles pour t'aider. On va faire des listes, surtout avec Internet maintenant, tu as des listes de choses que tu peux, que tu ne peux pas faire. Il y avait des centaines de catégories, mais de lois et de règlements. C'est à s'y perdre. Donc, ce que les rabbins faisaient, c'est qu'ils allaient accrocher au centre-ville, à Jérusalem, dans le temps de Jésus-Christ, les lois. Donc, ils s'en vont voir Jésus, et ils veulent le coincer, ils vont lui poser la question. Et la question qu'ils vont lui poser, c'est celle-ci. Quel est le plus grand commandement? Alors, c'est quoi la règle des règles? Le commandement des commandements, c'est quoi pour toi la liste? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Et il voulait le coincer. Et Jésus va répondre. Qu'est-ce que Jésus va répondre dans Matthieu 22? Nous lisons. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second, qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements dépendent, littéralement dans le grec, sont accrochés. Vous voyez, Jésus a beaucoup d'humour là, et il est en train de lancer une pointe. Puis il dit, de ces deux commandements sont accrochés toutes les lois et les prophètes. En d'autres mots, vous voulez savoir quelle loi accrochée au centre-ville? Aime Dieu de tout ton cœur, puis aime ton prochain de tout ton cœur. Puis tu vas voir, tout le reste va découler. D'ailleurs, la Bible de Jérusalem le rend comme ceci. Ça dit, à ces deux commandements se rattachent toute la loi et les prophètes. Alors, voici la clé, c'est la différence entre la religion et l'Évangile. La religion fait des efforts pour être acceptée de Dieu. Et c'est le problème, d'ailleurs, avec le judaïsme et avec les autres religions. Avec les religions. La religion, c'est quoi? C'est que je veux faire des efforts pour être accepté de Dieu. Alors qu'avec l'Évangile, c'est le contraire. C'est Dieu qui nous a aimés en livrant son Fils sur la croix pour nous accepter. En d'autres mots, il nous aime, il envoie son Fils unique sur la croix souffrir, mourir, humilier, persécuter pour m'accepter. Et ça, c'est l'Évangile. Et c'est ce que dit Romains 5:8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Maintenant, en réponse à cet amour, à cette preuve d'amour, en réponse à cela, nous voulons poursuivre la sainteté. Et c'est complètement l'opposé de la religion. Donc, nous voulons répondre. Et ça, mes chers amis, c'est très important. Regardez bien le verset à la lumière de cet enseignement-là, à la lumière de cette vérité-là. Regardez bien ce que dit 2 Corinthiens 5:14 maintenant. 2 Corinthiens 5:14 dit ceci, c'est que l'amour de Christ nous presse. Voyez-vous? C'est l'amour de Christ qui nous presse. Parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voyez-vous la différence ici? C'est l'amour que Jésus a démontré en allant à la croix qui nous incite, nous motive, nous presse, nous pousse, nous inspire à marcher dans la sainteté et de ne plus vivre pour nous-mêmes. C'est en réponse à l'amour que Jésus a manifesté envers nous que nous voulons maintenant lui plaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le fruit de l'Esprit et la sainteté, non, le fruit de l'Esprit est une vue éclatée de la sainteté. En d'autres mots, c'est à peu près comme si tu prends la sainteté et tu la découpes en morceaux, tu vas avoir le fruit de l'Esprit. D'accord? Le fruit de l'Esprit est une vue éclatée de la sainteté. Par exemple, laissez-moi vous expliquer un peu ce que je veux dire par là. Si tu prends une photo de maillériste, c'est pas exactement maillériste, mais c'est la même chose, même couleur, grise, tout ça. C'est maillériste. OK? Maintenant, si je prends maillériste, ça c'est une photo de maillériste. Maintenant, quand tu regardes maillériste, tu sais pas ce qu'il y a en dedans. Tu sais pas qu'il y a un moteur en dessous. Tu as besoin d'une photo éclatée. Et ça, c'est ce qui paraît à l'extérieur. Maintenant, si je vous montre une photo de l'intérieur, une photo éclatée de maillériste, voici ce que ça donne. Ouais, c'est un peu. Ouais, vous avez compris, c'est pas maillériste, hein? C'est Bugatti, un V16. V16. La voiture la plus rapide au monde et la plus chère. 3 000 000 $, 400 km/h. Wow! Je vais rentrer à l'église en une minute. Mais ça, c'est une photo éclatée. Si tu fais la même chose maintenant avec la sainteté, tu éclates une photo de la sainteté, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir le fruit de l'Esprit. Parce que, vois-tu, le fruit de l'Esprit, c'est la même chose que la sainteté. On le sait parce que quand on regarde Romains 6, on regarde un Pierre et d'autres passages, les auteurs font un contraste entre les œuvres de la chair et la sainteté. Et là, quand on arrive dans Galates 5, Paul fait un contraste entre les œuvres de la chair et le fruit de l'Esprit. Voyez-vous, le fruit de l'Esprit et la sainteté, c'est la même chose. On parle de la même chose. Donc, si on revient à 2 Corinthiens, l'amour de Christ nous presse. Le sacrifice de Jésus, l'amour qu'il a démontré pour moi en allant à la croix, me pousse à la sainteté. Donc, voici le secret de la sainteté. Donc, voici le secret du fruit de l'Esprit. Si tu comprends que Dieu t'accepte sur la base du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Et quand on parle de comprendre, on ne parle pas juste d'intellectuel. Oui, ça comprend intellectuel, mais si je suis émerveillé, saisi, imprégné par cette vérité que Dieu m'a tellement aimé, qu'il m'a accepté sur la base du sacrifice de Jésus-Christ et non sur mes œuvres, si je comprends ça et je le saisis, et dans la mesure où je le saisis, ça va me pousser à la sainteté. Vois-tu, c'est l'amour de Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour moi en allant sur la croix, qui me presse, qui me pousse à vouloir lui plaire. Alors voici le secret de la sainteté et le secret du fruit de l'Esprit. Je voudrais plaire au Seigneur avec joie et obéissance, dans la mesure où je comprends, on s'entend bien quand on parle de comprendre ici, lorsque je suis saisi. Je voudrais plaire au Seigneur avec joie et obéissance dans la mesure où je comprends que Dieu m'accepte sur la base du sacrifice de Jésus-Christ et non en fonction de mes œuvres. Alors voici l'équation, les amis, le secret de la sainteté, le secret du fruit de l'Esprit. plus je comprends que Dieu m'accepte sur la base du sacrifice de Jésus-Christ, plus je vais rechercher la sainteté et je vais produire du fruit. Alors le problème, il est là. Il est à ce niveau-là. Jonathan Edward a dit ceci. Il fait une observation vraiment intéressante. Il a dit, c'est une chose d'aimer Dieu pour sa bonté ou de l'aimer pour sa puissance. Maintenant, un vrai chrétien aimera Dieu pour sa bonté et pour sa puissance. Mais seulement le vrai chrétien peut aimer Dieu pour sa sainteté. Après tout, bien des gens peuvent venir au christianisme, un peu comme ils le feraient lorsqu'ils s'en vont chercher un livre de motivation personnelle. Bien des gens, par exemple, il y a bien des gens qui vont dire, sais-tu, donne-moi la recette, ça va vraiment pas mal, ça va vraiment pas bien dans ma vie, j'ai un paquet de problèmes, j'ai vraiment, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la puissance de Dieu dans ma vie, donne-moi une recette. Est-ce que je dois aller plus souvent à l'église? Est-ce que je dois lire des livres? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la puissance de Dieu? Il y a certaines personnes qui n'ont pas de problème. Des non-chrétiens n'ont même pas de problème à croire à la puissance de Dieu parfois. D'autres personnes n'ont pas de problème à croire à la bonté de Dieu. Par exemple, la personne va te dire, écoute, dis-moi quoi faire. Moi, je me sens constamment coupable. J'ai de la misère, j'ai le sentiment de culpabilité. Alors, dis-moi quoi faire. Ces gens-là, même des non-croyants, n'auront pas de misère à croire à la bonté de Dieu. Les gens aiment croire à la bonté de Dieu et à sa miséricorde ou à sa puissance quand ils en ont besoin. En d'autres mots, c'est possible de se servir de Dieu pour avoir sa puissance, mais ça, c'est pas de l'aimer pour ce qu'il est. C'est de l'aimer pour ce qu'on peut obtenir afin de m'aider. C'est pareil, la même chose aussi avec la bonté de Dieu. Je peux me servir de Dieu pour avoir sa bonté, sa miséricorde, parce que on déteste tous se sentir coupable. Edwards explique que les vrais chrétiens aiment Dieu pour sa bonté, sa puissance, mais les non-chrétiens aussi peuvent l'aimer pour ces deux raisons-là. Maintenant, si Edwards continue en disant, si tu aimes Dieu, par contre, pour sa sainteté, pour sa pureté, sa perfection, oui, pour sa bonté, sa grandeur, sa puissance, alors tu es en train de l'aimer pour qui il est. Tu n'es vraiment pas en train d'aimer Dieu pour ce qu'il va t'apporter, mais vraiment pour qui il est. La seule façon que c'est possible d'aimer Dieu de cette façon-là, c'est de croire à l'Évangile. Ce sera possible que dans la mesure où tu dis, Seigneur, si je t'aime, c'est grâce à ce que tu as fait pour moi. Tu m'as déjà aimé quand je n'étais pas aimable. Je ne peux pas me servir de toi pour obtenir plus. J'ai déjà tout reçu en Jésus-Christ. Alors, je t'admire, je t'aime, je veux te plaire, je veux te ressembler. Regarde, transpose ça dans une situation avec ma femme. Si ma femme vient me voir, par exemple, un soir, dans un moment romantique, tu sais, elle vient me regarder puis elle vient me dire, « Chérie, pourquoi tu m'aimes? Hein? Est-ce que ta femme te déjà posé cette question-là, ton mari? Hein? Pourquoi tu m'aimes? Ah, dis-moi, chérie, pourquoi tu m'aimes? Et toi, tu réponds. Imaginez que je répondrais à ma femme, mais c'est-tu parce que c'est pratique de t'aimer? Sais-tu, j'ai regardé plusieurs femmes, j'ai fait le calcul, j'ai calculé ça, je me suis fait une équation sur mon document Excel, des points, des valeurs numériques, et j'ai mis des points, j'additionnais, soustrayais, etc. J'ai regardé différentes femmes et ce qu'ils pouvaient m'apporter. Puis finalement, la conclusion, c'est toi qui es vraiment la plus productive. C'est toi qui vas pouvoir m'aider à atteindre les buts dans ma vie, etc. Ça va être pratique. Ça, tu vas même m'aider. Tu es pas mal bonne en comptabilité. Tu vas pouvoir même m'aider à mieux gérer mon foyer. Donc, franchement, la conclusion, c'est que je t'aime parce que, oh, tu es productive, ma belle. Alors, Richard, au premier service, Richard Fortin, il dit, fais attention, si tu continues comme ça, tu vas te retrouver sur le toit. Ce que ta femme et ce que ma femme veut entendre, ce que ma femme veut entendre, sais-tu, chérie, je t'aime? Parce que je t'aime. Parce que qui tu es? Je t'aime pour qui tu es. Ah! Je t'aime pour qui tu es. Hein? Ouais, les femmes, là, c'est le temps de dire amen, hein? Elle lui travaillait fort pour vous autres ce matin, là. Je t'aime pour qui tu es. Savez-vous quoi? Dieu nous aime comme ça. Et plus encore, il ne vient pas à nous pour nous dire, sais-tu, je t'aime parce que tu vas être pas mal rentable. Non, tu n'étais pas rentable du tout lorsque le Seigneur t'a exprimé son amour envers toi. Et c'est le message qu'il veut donner aux Juifs dans Deutéronome, lorsqu'il dit ceci à Deutéronome, chapitre 7. Et voici ce qu'il dit. Il dit, ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que le Seigneur vous aime. Quand on comprend que Dieu nous aime de cette façon-là, quand on comprend que nous sommes acceptés en dépit de tout ce que tu as pu faire dans ton passé, lorsque tu saisis cette vérité-là, qu'on est accepté, qu'on lui appartient, c'est à ce moment-là que tu te tournes vers Dieu et tu lui dis, « Bon sang, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, tu m'as tellement aimé. Je t'aime. Je t'aime, je vais te plaire. Mon ami, je t'aime. » Et là, tu vas rechercher la sainteté et le fruit de l'Esprit. Vois-tu, son amour ne dépend pas de nos performances. On veut tout être accepté au fond de nous. Vrai? On cherche l'acceptation. C'est triste, vous avez entendu parler de John Rivers récemment qui est décédé. John Rivers qui était tellement populaire, ça fait des années sa carrière, c'est très très populaire, une comédienne, à 81 ans, elle est décédée récemment. Mais ce qui est triste, c'est aussi une femme qui a pas mal tout ce que les gens pouvaient espérer, pas vrai? Millionnaire, la gloire, en demande partout, populaire, aimée, mon ami. Et pourtant, elle ne s'aimait pas. Savez-vous qu'elle a subi 739 chirurgies esthétiques, dont la moitié au visage? Et encore, lorsqu'elle est décédée, elle est en train de se préparer pour subir une autre intervention chirurgicale, cette fois-ci dans ses cordes vocales, parce qu'elle n'aimait pas sa voix. C'est triste, mais à quelque part, est-ce que ça ne témoigne pas quelque chose qui est au fond de chacun d'entre nous, de vouloir être accepté puis d'être aimé? Le Seigneur Jésus dit, moi je t'aime comme ça. Je t'aime complètement. Tout l'amour que tu recherches au fond de toi, ton cœur qui a soif de cet amour-là, moi je t'aime comme ça. C'est comme ça que je t'aime. On veut être accepté. Dieu nous a aimés quand on n'était pas aimables. Il nous a aimés quand nous étions pécheurs. Le crois-tu, ça? Oui, mais tu vas dire, oui, on parle de l'amour souvent, je crois à ça, je n'ai pas problème à croire à ça. Honnêtement, là, sois honnête et humble envers toi et envers Dieu. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu t'aime? Savez-vous, un professeur de séminaire, pas n'importe qui, de séminaire, un professeur de séminaire a demandé à 102 de ses étudiants s'ils étaient convaincus que Dieu les aimait. Savez-vous combien de personnes, combien d'étudiants ont répondu? Qu'ils étaient convaincus que Dieu les aimait, dans un séminaire, seulement 2 personnes. Je pense que je comprends de plus en plus en vieillissant pourquoi Paul fait cette prière dans Éphésiens. Lorsqu'il dit dans Éphésiens, et ça devrait être notre prière, lorsque Paul dit ceci, « Je prie qu'il vous donne d'être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. » Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Maintenant, si tu n'es pas convaincu que Dieu t'aime, fais-en ta prière. Demande à Dieu qu'il tourne, qu'il dirige ton cœur vers son amour. Tu as des doutes? Continue. Répète-le. Seigneur, dirige mon cœur vers ton amour. Fais-le 5 fois, 10 fois, 15 fois. Demande au Seigneur jusqu'à temps que ton cœur se réchauffe. Lorsqu'il brûle en dedans, là, qu'il attendrit ton cœur, et tu sois émerveillé devant Dieu, devant ce Dieu-là qui t'a aimé à ce point-là, et tu vas voir tranquillement ta vie changer. Ton caractère va changer. Tu vas produire du fruit. Tu vas devenir de plus en plus saint. C'est le psaume 27 qui dit ceci. Psaume 27. Je demande à l'Éternel une chose. Que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison d'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel. Le mot hébreu « raza » qui veut dire « être émerveillé ». Tu as besoin et j'ai besoin d'être émerveillé par la beauté, la douceur de Dieu. Émerveillé de quoi? Sa magnificence. Noam en hébreu, la magnificence. L'expression en hébreu peut aussi être traduite par la douceur. C'est pour ça que la Bible de Jérusalem a traduit comme ceci, « Savourez la douceur de Dieu ». Voyez-vous, c'est ça qu'on nous avons besoin. être émerveillé de la douceur de Dieu, de sa grandeur, sa beauté, son amour pour nous. Et vous allez voir tranquillement, nous allons rechercher la sainteté et produire du beau fruit. Quelqu'un a fait l'observation que dans le Coran, le livre saint de l'islam, on ne parle pas beaucoup d'amour. Je voulais en avoir le cœur net. Alors, je suis allé sur le site Internet. Vous savez, aujourd'hui, on peut tout trouver sur Internet, à peu de choses près. Alors, je suis allé voir le Coran sur le site Internet. Puis j'ai fait une recherche. Il y avait un moteur de recherche, donc j'ai fait une recherche sur le nom « amour » et le verbe « aimer ». Et effectivement, le mot « amour » vient à quelques reprises, mais vraiment pas beaucoup. 9 fois le mot « amour », quelques autres fois le verbe « aimer » à quelques endroits. Mais encore là, on parle de ne pas aimer, par exemple, le matériel, etc. Mais voici ce que j'ai trouvé, par contre. Dans la sourate, chapitre 19, verset 96 du Coran, dit ceci. « À ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. » Voyez-vous, Allah va t'aimer à condition que tu crois et que tu performes, que tu fais des bonnes œuvres. Son amour est conditionnel. Je vais t'aimer si. Par exemple, dans la sourate 9, 7, Allah aime les pieux. Sourate 9, verset 108, Allah aime ceux qui se purifient. Sourate 4, 107, Allah n'aime pas le pécheur. La sourate 6, 165 dit, ton Seigneur Allah est prompt en punition. Prompt en punition. Et moi, ce que je vois dans les Écritures, c'est quoi? Lent à la colère. La Bible, en revanche, parle de l'amour très souvent. Une étude du mot « amour » et le verbe va te montrer que tu as à peu près 600 quelques fois que le mot « amour » va revenir. Exode 34, 7 va dire ceci. « Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations. » Ésaïe 54, 8, nous lisons. « Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur éternel. » Ésaïe 54, 10 dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. » Romains 5, 8 dit « Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et Romains 8, 35 « Qui va nous séparer de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est pour cette raison-là qu'on aime Dieu, parce qu'il nous a aimés en premier. En fond, on pourrait critiquer les musulmans, mais savez-vous quoi? Mon cœur pleure. Parce que c'est là qu'on était, nous autres aussi, avant de connaître Jésus-Christ, pas vrai? On voulait être accepté, et le Dieu qu'on avait en notre esprit était un Dieu de colère, un Dieu qui fallait satisfaire, un Dieu qui fallait gagner sa faveur. Et d'ailleurs, c'est le même message pour toutes les religions. C'est la même chose. Seul l'Évangile nous montre un message, nous donne le message d'un Dieu qui nous a aimés lorsqu'on n'était pas aimables. Quand tu commences à aimer Dieu pour ce qu'il est, tu vas grandir dans le fruit de l'Esprit. Parce qu'on porte du fruit selon le regard que l'on porte envers Dieu. À force de le contempler, l'admirer, d'être frappé par son amour, on veut porter du fruit, on veut marcher dans la sainteté. C'est pour ça que plusieurs musulmans sont en train de se convertir à Jésus-Christ. En cachette, souvent, parce qu'ils peuvent tout perdre et même mourir. Mais plusieurs, il y a vraiment un gros réveil chez certains musulmans à travers le monde. Parce que le message de l'Évangile est doux au cœur, n'est-ce pas? Les attributs communicables de Dieu grandissent en nous à mesure qu'on s'approche de lui, qu'on l'admire et qu'on l'aime. C'est ce que Jean 13 dit. Jean 13, 34 dit, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Alors, le message, tu veux porter plus de fruits? Je veux aimer comme je suis aimé. Et c'est pour ça qu'on veut prendre la Sainte-Seine ce matin. On veut prendre la Sainte-Seine pour célébrer vraiment l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu manifesté à la croix avec notre Seigneur Jésus. Et je vais inviter les frères ici à distribuer les éléments. Et si vous êtes né de nouveau, vous avez été baptisé par immersion, on vous invite à prendre part à ce repas, à cette scène qui nous rappelle le sacrifice de Jésus-Christ.